des Arts, rue Sainte-Catherine-Ouest, où le maire de Montréal, maître Jean Drapeau, donne ce soir une conférence publique.
Je sais bien que dans les journaux, sur les billets, il est question d'une conférence. Pourtant, ce n'est pas comme conférencier que je suis monté sur cette scène. Sans doute aurais-je aimé préparer une conférence dans une forme très élégante, très littéraire, farcie de citations choisies aux sources les plus riches de l'opéra, et invoquer les autorités les plus compétentes, les plus connues. Mais ce n'est pas un conférencier qui se présente à vous. C'est un administrateur et qui a une confession à faire dès le début et qui va la faire. Mais je dois dire que si je devais absolument classifier cette soirée, je me rappellerais une expression qu'on trouve sous la plume de Sacha Guitry et qui dit que lorsqu'il se rendait au théâtre pour y jouer la comédie, il se disait « Ce soir, j'ai un rendez-vous d'amour avec 1000 personnes. » Eh bien, j'ai mieux compris en venant ici ce soir vous rencontrer que nous avions, vous et moi, un rendez-vous d'amour, puisque si nous n'aimions pas l'opéra, vous ne seriez pas ici, moi non plus. Ce rendez-vous d'amour commence par une confession. Je dois vous dire, comme administrateur public, que de tous les défis que j'ai accepté de relever depuis le début de ma carrière, il n'en est pas de plus difficile que celui que j'ai accepté de relever en lançant l'idée d'un opéra permanent à Montréal. Et c'est parce que ce défi est difficile qu'on ne peut pas le relever simplement autour d'une table de délibération entre administrateurs publics et qu'on ne peut pas prendre des décisions entre quatre murs, sachant que par-delà les murs, il y a une opinion publique unanime qui soutient le projet. C'est à cause de cette difficulté que j'ai accepté cette invitation des Jeunesses musicales du Canada de venir vous rencontrer pour vous parler d'opéra, pour vous tenir des propos qui ne vous apprendront peut-être rien. Mais votre présence aura appris à d'autres que l'opinion publique est peut-être bien plus qu'on le croit au soutien de l'opéra. Et parmi les raisons qui me font trouver ce défi difficile, il y a précisément que, et on sait que j'en ai fait des démarches, que j'en ai consulté des gens et que j'en ai parlé de ce projet, j'ai trouvé qu'il y avait chez chaque individu une conviction certaine, mais il semble que cette conviction ne dépasse pas la personne qui parle et que lorsque la personne a dit « Oui, je suis bien en faveur d'un projet d'opéra permanent pour Montréal », on s'empresse d'ajouter le doute. « Oui, mais Montréal est-elle prête? Oui, mais ça coûte cher. Je suis bien pour un opéra, mais est-ce qu'il va y avoir assez de monde tout de même pour 150 représentations? C'est beaucoup, 150 représentations. » Et alors, après avoir dit individuellement oui, on donne toutes les raisons pour lesquelles les autres diraient non. Ça a été mon expérience, et c'est pourquoi j'ai voulu rencontrer du monde, beaucoup de monde, pour savoir d'abord si cette idée pouvait vraiment trouver dans le public une résonance plus grande, plus collective que mes conversations individuelles me donnaient l'impression qu'il y avait. Je suis heureux de constater Et j'ai presque le goût d'entonner, mais n'ayez crainte, je ne le ferai, un désert de Tannhauser en contemplant cette assemblée. Eh bien, je ne peux pas faire autrement que de dire que ma première impression justifie ma décision d'accepter que nous passions ensemble ce dimanche soir. Donc, ce n'est pas une conférence. Je viens vous parler d'opéra. Rien dans les mains, rien dans les poches. Je viens vous parler d'opéra parce que je crois que le moment est venu de fonder à Montréal une maison d'opéra, parce que je suis convaincu, pour répondre à la question que j'ai posée par le titre de mes propos, l'Opéra de Montréal, aujourd'hui ou jamais, point d'interrogation, je réponds aujourd'hui. Et si au cours de mes propos, vous trouvez que ce petit mot détestable revient souvent, « je », eh bien, sachez que c'est un « je » collectif. Il y a des « nous » singuliers, des « nous » de dignité, mais qui restent singuliers. Il doit bien être permis d'employer des « je » collectifs. Et ce « je » collectif voudra dire non seulement celui qui vous parle, et surtout pas seulement celui qui vous parle, et pas principalement celui qui vous parle, parce que plaider la cause de l'opéra, c'est la plaider au nom, c'est prêter sa voix à tous ceux qui, pendant tant d'années, ici, chez nous, à coup de sacrifice, par un déploiement d'énergie extraordinaire, ont maintenu la flamme de l'opéra allumée. Je ne voudrais pas faire un long panégyrique de tous ceux-là qui ont aidé sans relâche, s'imposant des sacrifices dont on n'a pas idée, pour faire qu'à Montréal, il ne soit pas dit qu'il n'y aurait jamais d'opéra dans l'année. Je veux dire à ces gens-là que je leur prête ma voix ce soir et que le « je » que j'emploierai parfois le plus souvent, ça sera un « je » qui s'applique à eux, autant et même plus qu'à moi. Mais vous m'en voudriez si je ne saluais pas d'une façon toute particulière. Deux personnes, seulement deux, et je suis sûr que tous les autres, tous ceux-là qui ont fait quelque chose pour faire avancer l'opéra chez nous et la musique, seront satisfaits que je les remercie nommément en votre nom et au nom de toute notre communauté montréalaise et de la province de Québec. Je veux remercier Wilfrid Pelletier qui est avec nous ce soir. S'il en est un qui aurait pu se désintéresser de la musique et de l'opéra chez nous, c'est bien Wilfrid Pelletier qui a passé 33 ans de sa vie au Metropolitan Opera de New York. Il aurait pu se désintéresser, il avait toutes les explications possibles. Mais non, il a quand même gardé chaque année du temps pour venir chez nous, non seulement aider à fonder des institutions musicales, mais aussi à encourager et à préparer nos artistes, et il est allé plus loin que ça, par la fondation des matinées symphoniques, il a créé ce public qui aujourd'hui réclame davantage d'année en année. En votre nom, je lui dis de nouveau merci. Le deuxième nom que je veux signaler à votre attention, c'est celui d'un homme qui a eu le courage de situer dans la chose publique, au niveau des autorités publiques provinciales, l'importance de la vie culturelle, des affaires culturelles en général, M. Georges-Émile Lapalme, qui est ici ce soir. Ici. Le seul fait de cette reconnaissance officielle par un gouvernement d'un État du pays de l'importance de la vie culturelle, de la vie artistique, des institutions culturelles au même niveau que d'autres grandes entreprises de services publics est un événement à souligner et à lui aussi en votre nom. Et aussi au nom des générations à venir qui bénéficieront qu'un Georges Lapalme ait créé le ministère des Affaires culturelles et en ait été le premier titulaire, en leur nom, je dis à M. Lapalme, merci. De quoi s'agit-il? D'un opéra permanent. Qu'est-ce qu'on entend par ça? S'agit-il de construire? Non. Parce qu'on emploie l'expression « maison d'opéra », il y en a qui croient qu'il s'agit de construire une autre salle. Non, il s'agit d'une compagnie permanente d'opéra. Montréal n'en a pas. Est-ce que Montréal doit avoir honte? Les Montréalais doivent-ils se cacher le visage lorsqu'ils rencontrent des étrangers parce que Montréal n'a pas de maison d'opéra permanente? Je dis non. Pour la bonne et simple raison que dans ce contexte nord-américain, sur cet immense continent, il n'y a qu'une compagnie permanente d'opéra, le Metropolitan Opera, sur tout ce continent. Et encore, cet opéra permanent, le Metropolitan, est un opéra soutenu exclusivement par des fonds privés. Donc, pas une seule ville sur ce continent n'a une maison d'opéra, une compagnie d'opéra, qui soit ce qu'on appelle en Europe un opéra d'État. Il n'y a donc pas sur ce continent à rougir de honte parce que Montréal n'a pas de compagnie permanente d'opéra. La conception qu'on se fait de l'opéra est bien différente en Europe et en Amérique. D'une façon générale, en Europe, l'opéra, la musique, c'est une denrée quotidienne. C'est un service public, on ne s'en passe pas. Et à Paris, par exemple, on subdivise l'opéra et l'opéra comique, ce qui fait qu'on peut dire qu'à Paris, il y a deux maisons d'opéra qui sont des maisons permanentes. À Londres, il y a Covent Garden. À Vienne, il y a également deux maisons d'opéra, l'opéra et le Volksopera, qui est l'équivalent de l'opéra comique. En Allemagne, dans les pays de langue allemande, seulement, il y a plus de 100 compagnies d'opéra. C'est dire, encore une fois, que dans ces pays, l'opéra est une denrée de tous les jours. Et après les destructions massives, l'un des premiers édifices qu'il s'agit de reconstruire, l'une des premières institutions qu'il s'agit de réanimer, c'est l'opéra. Et c'est un souvenir bien émouvant que nous gardons, Maître Wilfrid Pelletier et moi, de cette scène de septembre, un lundi matin à 10 heures. Nous nous rendions à l'opéra de Munich, et en face de l'opéra, il y a les bureaux de vente de billets. Et c'était à 10 heures le matin, un lundi matin, et des gens de toute classe, s'enlignaient jusque sur le trottoir. C'était le 13, le 14 plus exactement de septembre. La saison commençait le 24 et les gens étaient enlignés à la file indienne jusqu'au trottoir pour acheter les billets de saison. Des gens de toutes classes, de tous âges, pour acheter leurs billets de saison. C'est donc une nécessité de la vie. Sur le continent nord-américain, il y a une autre conception. Ce sont des institutions privées qui vivent de fonds privés. C'est peut-être ce qui explique que sur ce continent, il n'y a pas une seule compagnie permanente d'opéra soutenue par les fonds publics. Tout au plus, à New York, et depuis 4 ans seulement, l'opéra, le ballet et la symphonie sont-ils exempts de la taxe d'amusement? Mais jusqu'à il y a 4 ans, il n'y avait même pas d'exemption. Il n'y a donc pas à se surprendre que Montréal n'en est pas. Ce que je propose, c'est quelque chose qui n'existe pas. Est-ce une honte maintenant de ne pas avoir de maison d'opéra permanente par rapport à ce qui se passe en Europe, par rapport à la conception qu'on a en Europe? Je dis non, non plus, pas plus. Parce qu'il est vrai que nous n'avons pas de maison d'opéra, mais depuis 30 ans, nous avons une orchestre symphonique qui nous fait honneur. Et aussi, parce que de toutes les villes du continent nord-américain, et on pourrait peut-être comparer, ce serait une étude assez longue, mais on pourrait comparer avec la plupart des villes, pour le moment je parle des villes européennes, et on verrait que Montréal est en avant de tout ce qui se fait, de tout ce qui apparaît au budget municipal sur le plan artistique et culturel. Disons tout d'abord que cette salle dans laquelle nous sommes coûte au budget municipal, outre les dons qui ont été faits au début, 2,5 millions, et les crédits qui ont été votés pour l'aménagement des abords, seulement les frais d'investissement, de financement, de service de dette, et grâce à une entente provinciale-municipale, au budget de la Ville de Montréal, il faudra tenir compte de 750 000 de dollars environ par année, pendant bien des années. Le gouvernement de la province devra faire la même chose. La Ville de Montréal, depuis 1955-56, à son conseil d'art et qui est unique en Amérique et qui administre une somme d'environ 300 000 $ par année qu'il distribue en octroi à des institutions culturelles et artistiques de la métropole. Il y a au budget de la Ville de Montréal environ 150 000 $ par année de voter au budget du service des parcs pour diverses manifestations d'ordre culturel et au budget, soit de la mairie, soit du comité exécutif, pour des participations à des réceptions indispensables après certains grands événements artistiques ou culturels. Si on fait l'addition de tout ça, on s'aperçoit que loin d'avoir honte, les Montréalais doivent être fiers de ce qui se fait à Montréal et de ce qu'ils investissent eux-mêmes par le paiement de leurs taxes dans la vie culturelle et artistique de la métropole. Ceci dit, je pose une autre question. Devons-nous être satisfaits de ne pas être en arrière des autres, ou devons-nous examiner si, objectivement, non plus comparativement, mais objectivement, il n'y aurait pas, tôt ou tard, une certaine honte dont il faudrait se recouvrir le visage si nous ne trouvons pas que le moment est arrivé de fonder un opéra. Parce que pour savoir quelle est l'obligation d'une ville, il faut savoir de quoi elle dispose. Et dans ce domaine particulier de l'opéra, il est peu d'endroits, où on puisse trouver un noyau aussi important, aussi impressionnant par le nombre et par la qualité de musiciens, de chanteurs solistes, de chanteurs choristes, de danseurs, de metteurs en scène, de décorateurs, de répétiteurs, de techniciens, enfin de ce noyau indispensable à la fondation d'un opéra local. Nous avons assisté, Maître Pelletier et moi, à des opéras à Berlin, à Vienne et à Genève et à Paris. Eh bien, à Genève, on y donnait Carmen avec des Américains, des Français, un Bulgare, un Italien. Il y a des chanteurs suisses, mais qui n'étaient pas dans la compagnie. Nous avons vu à Vienne, c'était Di Stefano qui chantait le premier rôle masculin et des Américains qui chantaient d'autres rôles. Eh bien, nous avons ici, je ne dis pas qu'on doit conclure qu'en Autriche, ils n'ont pas suffisamment de chanteurs, mais je dis que l'opéra doit d'abord avoir un noyau de chanteurs nationaux, de musiciens nationaux qui forment le noyau auxquels s'ajoutent les éléments indispensables à une compagnie bien structurée, bien formée. Mais nous avons cet inventaire des éléments indispensables. Inventaire, je le répète, que peu de villes peuvent s'enorgueillir d'avoir. Alors, ma question, je la repose, devons-nous être satisfaits de ne pas être en arrière des autres quand il semble que nous pouvons être en avant et même quand il semble que c'est notre devoir d'être en avant. Et pourquoi devoir? Parce que être la métropole du Canada, ça ne confère pas que des droits et des privilèges. Ça comporte aussi des obligations, des devoirs. Vouloir non seulement être la métropole du Canada, mais tendre à devenir l'une des grandes métropoles du monde, ça nous crée des obligations et des devoirs encore plus grands. Et il faut voir à partir de ce moment-là, à la mesure d'une grande métropole mondiale. Et vous le savez, le mouvement est lancé. Le mouvement est lancé, Montréal est définitivement lancé à la conquête de ce nouveau titre, l'une des grandes métropoles du monde. Et quand dorénavant les grands voyageurs diront qu'ils ont visité les grandes villes du monde, Paris, Londres, New York, Tokyo, Rome, ça ne sera pas complet s'ils n'ajoutent pas Montréal. Des obligations, des devoirs, il faut prendre les moyens de les remplir. Et alors, vous savez qu'au mois d'août, le 6 d'août, a eu lieu une rencontre historique et émouvante aussi, avec un empressement dont je n'avais pas idée. 175 artistes lyriques et chefs d'orchestre canadiens, les metteurs en scène et décorateurs, se sont réunis à partir de 8 heures le matin. Ils venaient de partout dans le monde, grâce à la coopération pour lesquelles je les remercie de nouveau, des compagnies aériennes transatlantiques. Eh bien, nous avons réussi à grouper chez nous la presque totalité de nos artistes canadiens, des deux langues et des néo-canadiens, et qui font carrière ailleurs ou qui étaient allés participer à des festivals étrangers. Et c'était émouvant de les voir se rencontrer, de les voir passer une journée ensemble, eux qui parfois s'étaient rencontrés sur la même scène dans une ville, et puis avait été des années sans se revoir. Et lorsque l'assemblée a commencé à 10 heures, après le petit déjeuner et les effusions amicales, et lorsque j'ai invité chacun à se lever et à se présenter de nouveau, ça formait un générique impressionnant, et je n'ai eu qu'un regret, c'est que tout ça, ça ne se fasse pas devant les 3 millions de personnes, chiffre auquel j'évalue la région artistique et culturelle qui entoure Montréal. Parce qu'alors, chacun se serait rendu compte que cet inventaire indispensable, nous l'avons. Et toute la journée, les échanges de vues se sont faits. Et la question à laquelle ils avaient à répondre était bien simple. Tous ceux qui font carrière à l'étranger, je leur ai demandé, préférez-vous faire carrière à l'étranger et venir ici de temps à autre, ou si vous préféreriez faire carrière ici et aller chanter ailleurs quand vous êtes libre? Et la réponse a été unanime. On fait carrière à l'étranger parce qu'on ne peut pas faire carrière chez soi. Il n'y a pas de place pour ces gens-là d'une façon permanente chez nous. Et j'ai demandé aux plus jeunes, ceux qui ne sont pas encore arrivés au niveau international, ce que je veux savoir, c'est ceci. Est-ce que vous apprenez le chant en vue d'aller ailleurs? Et ils ont répondu non. Nous irions ailleurs aussi, mais nous voudrions bien faire carrière chez nous. Par la suite, le ministère des Affaires culturelles, dont l'honorable Lapalme était le ministre, a bien voulu désigner Maître Wilfrid Pelletier, au nom de la province, pour qu'il m'accompagnât faire une tournée des grandes maisons d'opéra d'Europe. Et nous avions commencé la semaine précédente par de longues entrevues avec les gens du Metropolitan et du New York City Center Opera. Nous avons recueilli des renseignements. Nous avons pu constater qu'il y a des constantes, des constatations qui reviennent partout et qui varient un peu de l'Amérique à l'Europe. Mais ce qu'on constate partout, c'est que ça coûte de l'argent. Ce qu'on a constaté, et je voudrais remercier tous les consuls qui, ici à Montréal et d'ici, ont facilité notre tâche, ont préparé notre venue dans les maisons d'Europe que nous avons visitées. Nous avons été reçus à bras ouverts, avec une cordialité qui n'avait d'égal que les bons sentiments que les consuls de ces pays-là entretiennent envers Montréal et les Montréalais. Je sais qu'il y en a ici ce soir, je les salue de nouveau et je leur dis merci. Et nous avons été reçus à bras ouverts parce que nous avons pu constater que le monde de l'opéra est une grande fraternité. Il n'y a pas de rivalité. L'idée que Montréal puisse avoir une maison d'opéra en permanence a réjoui tous ceux qui nous ont reçus. Il nous a valu des offres de coopération. C'est sans la moindre réticence qu'on nous a fourni tous les renseignements qu'on demandait. Et c'est avec empressement qu'on nous a fait parvenir par la suite tous ceux qu'on n'était pas en mesure de nous fournir séance tenante et qu'on nous a fait parvenir des documents, des volumes, des bilans, enfin des états financiers, des exemplaires de formules de travail. Enfin, nous avons rencontré partout un enthousiasme sincère et réel. Nous avons constaté que, dans l'ensemble, l'opéra là-bas, c'est une chose admise. Ça fait partie du budget de l'État comme tous les autres services. On considère qu'il y a des parcs publics qui sont aux frais de l'État. Eh bien, ceux qui, au lieu de se promener dans les parcs, veulent s'asseoir dans une salle et entendre de l'opéra, on a admis dans ces pays-là qu'ils ont le même droit que ceux qui se promènent dans un parc. Alors, c'est une réalité de tous les jours. On a trouvé aussi que les budgets se ressemblent. À quelques exceptions près, comme Covent Garden et l'Opéra de Paris, les budgets se ressemblent. Et on a trouvé que les revenus de la vente des billets représentent environ un tiers à peine du budget total. L'État se charge du reste. Mais on a constaté aussi que les prix d'admission sont d'à peu près, généralement, de 80 cents, l'équivalent de 80 cents de notre monnaie, à 4 $. D'où nous pouvons tirer une conclusion. C'est que là, les subventions à même les fonds publics deviennent en réalité des subventions à la population. Ici, vous le savez, quand on donne un opéra, on est obligé de le donner pour un nombre limité de représentations. On est obligé de faire face à des frais qui se renouvellent chaque fois. Et en conséquence, il en résulte un budget qui exige des prix qui varient de 4 $ à 8 $50. Et malgré ce prix de 4 $ à 8 $50, on a vu que pour la Tosca, on a vu que pour Carmen, la salle était remplie, les billets se sont enlevés avec une rapidité décevante pour ceux qui n'ont pas pu en obtenir. Alors, nous avons constaté, donc, que l'opéra est une denrée de tous les jours, que les pouvoirs publics reconnaissent l'opéra comme un service public, que les prix d'admission sont fixés en conséquence. Nous avons constaté que les musiciens et les chanteurs sont engagés à 52 semaines par année. Ils sont engagés donc sur une base absolument permanente avec sécurité sociale, caisse de retraite, comme dans toute autre industrie. Nous avons constaté que grâce à tout ça, ça permet une amélioration constante du niveau. Nous avons pu constater que ça permet d'établir des écoles d'opéra, parce que là, tous ceux qui ont de la voix, qui veulent faire carrière, se disent, il y a une possibilité en haut, sans qu'on soit obligé de s'expatrier. Nous avons aussi fait des constatations consolantes, c'est qu'il n'y avait pas que des Canadiens qui chantaient à l'étranger. On nous a dit en Allemagne qu'il y avait peut-être 500 ou 600 chanteurs d'opéra américains qui chantent en Allemagne, attendant qu'aux États-Unis, on les découvre comme étant suffisamment bons pour rentrer aux États-Unis. C'est une consolation consolante parce que trop souvent, on est porté à blâmer, on a été porté dans le passé, on l'est encore à blâmer les pouvoirs publics. Dès que quelqu'un s'en va chanter à l'étranger, d'abord, disons que ça fait partie, ça doit faire partie d'un entraînement complet de chanter sur toutes les scènes du monde, et ça fait partie également de la fierté nationale de pouvoir avoir des chanteurs, des artistes sur toutes les scènes du monde, pourvu qu'ils ne soient pas condamnés à rester là. Donc, ce sont des constatations que nous avons faites. Et en revenant, j'ai poursuivi des études, des recherches ici même. Et nous avons constaté quoi? Nous avons constaté que ce pessimisme n'est pas justifiable. Quand j'ai parlé que dès la première saison, il pourrait y avoir 150 représentations au total, d'une quinzaine d'œuvres différentes, je sais que nombreux sont ceux qui ont dit « c'est bien trop pour Montréal ». Eh bien, si vous voulez, nous allons étudier cet aspect-là, qui est fondamental de la question. Parce que, avant de voir comment financer l'entreprise, si nous devons la fonder, il faut être convaincu qu'une maison d'opéra en permanence doit engager des gens, les payer 52 semaines par année, chanteurs, choristes et solistes, et musiciens. Et en conséquence, il faut être convaincu qu'on va être capable de présenter suffisamment de spectacles et que le public sera suffisamment nombreux pour justifier de présenter les 150 spectacles. Alors, si vous voulez, nous allons étudier ce climat, ce contexte artistique dans lequel nous vivons. Et nous allons nous reporter quelques années en arrière, parce que le théâtre lyrique, c'est pas une chose nouvelle à Montréal. On n'a pas oublié, par exemple, les variétés lyriques qui faisaient suite à la Société canadienne d'opérette. Et pendant le quart de siècle tout près, qu'ont duré les variétés lyriques. Qu'est-ce qui s'est passé? Ça fait malheureusement plusieurs années qu'elles ont cessé leurs activités. Mais non pas parce que le public faisait défaut, parce que le prix de toute chose montant, que le climat artistique, que l'importance des affaires culturelles n'ayant pas été encore consacrées par les pouvoirs publics, il était impensable de demander des subventions de 15, 20, 25 ou 50 000 $ et en conséquence, les variétés lyriques ont fermé leurs portes. Mais pas parce qu'il manquait de public. Savez-vous qu'en 1951, alors que les variétés lyriques donnaient leur spectacle de théâtre lyrique dans la salle du Monument national, ce n'est pas déprécier la salle que de dire que personne aimait vraiment aller au Monument national. On y allait, mais personne n'y allait parce qu'on était bien dans la salle. Combien de gens avaient peur du feu? Combien de gens n'étaient pas capables ou avaient grand peine à monter les escaliers? Et combien de femmes avaient peur le soir d'être dans ce secteur un peu obscur et où des personnages assez caractéristiques de la place Pigalle circulaient plus dans ce temps-là? Combien de gens avaient peur d'y aller en automobile parce qu'ils craignaient de laisser leur auto le long du trottoir sur une petite rue parce qu'ils craignaient de la trouver endommagée ou des parties des accessoires automobiles disparus? Tout était contre la salle du Monument national. Et en outre, il faut bien le dire, il y avait à peu près seulement les Canadiens d'expression française qui allaient aux variétés lyriques. Et malgré tout, en 1951, les variétés lyriques donnaient 97 représentations salle comble. Il y avait 1400 places, direz-vous. D'accord. Mais 97 représentations en 8 mois de 5 œuvres. Et ces 97 représentations, c'était pas seulement de l'opérette. Des gens ont gardé le souvenir qu'il n'y avait que de l'opérette aux variétés lyriques, mais non. Mais non, on montait de l'opéra. Parce que la ligne de division entre l'opéra et l'opéra comique, elle n'est pas facile à fixer. Nous avons eu des expériences en Europe, demandant à un directeur d'une grande maison d'opéra d'Europe s'il ne montait que des opéras, ayant eu la réponse oui, demandant le programme de l'année suivante, il nous a dit qu'on avait donné la Veuve Joyeuse. Parce qu'il y avait un ballet extraordinaire de greffer sur la Veuve Joyeuse. Et remarquez bien que ça ne me scandalise pas parce que le théâtre lyrique, c'est du théâtre lyrique. Et à Paris, Carmen a été créée et jouée longtemps à l'Opéra Comique avant de passer au répertoire et à la Maison de l'Opéra. Maître Pelletier et moi, nous avons vu Madame Butterfly à Vienne à l'Opéra alors qu'il y a un Opéra Comique. Mais à Paris, il aurait fallu aller à l'Opéra Comique pour voir Madame Butterfly, parce que ça fait partie du répertoire de l'Opéra Comique et non pas du répertoire de l'Opéra. Alors, il n'y a pas à se surprendre. Il n'y a pas de cloison étanche. Et quand je parle d'une maison d'opéra permanente, c'est dans le sens de théâtre lyrique, incluant l'opéra qu'on appelle l'opéra sévère, l'opéra moins sévère, l'opéra comique et l'opérette. On donne la chauve-souris. On donne des œuvres de Strauss. À Genève, on donne des opérettes dans le cadre de la saison d'opéra. Alors, il s'agit donc d'un théâtre lyrique. Et les variétés lyriques ont présenté la Traviata, Manon, Werther et d'autres. 97 représentations. Et que s'est-il passé depuis 1951? Ça fera bientôt 15 ans. Est-ce que le climat artistique et culturel de la grande métropole, de la grande région et de tout le Québec ne s'est pas soudainement transformé? Est-ce qu'il n'y a pas eu, depuis quelques années, une explosion qui fait, par exemple, que les concerts symphoniques qui jouaient dans la salle du plateau devant 12 ou 1300 personnes deux soirs, eh bien, jouent ici devant 3000 personnes deux soirs? Et aussi parce que tout ce qu'il y a de qualité remplit la salle. Je maintiens que le théâtre lyrique, s'adressant non plus aux seuls Montréalais d'expression française, mais aux Montréalais de toute langue et de toute culture, d'origine anglaise ou les néo-canadiens de toutes origines, je dis qu'il y a là un public qui fait plus que doubler chez les Canadiens français et chez chacun de ces groupes, un public qui fait plus que doubler le public possible en 1951. En outre, il faut bien avouer que tous les gens qui viennent ici aiment venir dans cette salle. Il n'y a aucun des inconvénients de la salle du Monument national. Au contraire, tous ces inconvénients ont été transformés en des provocations à y venir. Une salle où on peut venir en automobile, 800 places au-delà de stationnement, une salle où ceux qui viennent par les moyens de transport public pourront y venir et en repartir par le métro, la station est en dessous de la salle, une salle qui est située dans un endroit où on y vient à peu près de n'importe où à Montréal en 15 minutes. Une salle qui est située dans une ville qui maintenant est au cœur d'une région de 3 millions de personnes qui sont desservies d'une façon permanente par ce centre culturel. Et alors je me dis, est-ce que 150 représentations, c'est trop? Parce que je crois que pour justifier des engagements à l'année, il faut faire travailler ceux qu'on engage suffisamment. Et il faut un minimum de 150 représentations. Est-ce que c'est trop pour la région de 3 millions de personnes, sans compter les touristes qui viennent de plus loin? Je dis non, c'est pas trop. Et nous allons faire rapidement un petit calcul. Disons d'abord que 3 millions de personnes ne viendront pas à l'opéra. Enlevons les enfants et les vieillards qui ne peuvent plus sortir, les malades, les impotents, ceux qui ne mènent plus une vie active. Et enlevons les enfants trop jeunes. Je dis, coupons par la moitié. De 3 millions, tombons à 1,5 million de personnes, adolescents et adultes, susceptibles d'être des clients de l'opéra. Mais je me dis aussi, il y en a peut-être bien la moitié, puis ça n'intéressera pas jamais. Alors, divisons encore par deux. Ça fait en chiffres ronds 600 000 personnes. Je me dis, même les 300 000, les 600 000, divisons encore par deux, parce qu'il y aurait encore des possibilités que je sois trop enthousiaste, trop optimiste. Alors, divisons en deux encore une fois. Ça fait 300 000. Alors, si ces 300 000 personnes-là venaient à l'opéra seulement une fois, ça ferait déjà 300 000 billets de vendus sur 450 000. S'ils veulent revenir, il y a de la place seulement pour 150 000. On est obligé encore de couper par la moitié. S'il y a 15 opéras dans au programme de la saison, il est entendu que les mêmes ne viendront pas aux 15 opéras. C'est entendu. Mais je sais qu'il y en a qui viendront aux 15. Je sais qu'il y en a qui viendront à 10. Je sais qu'il y en a qui viendront à 5, 4, 3, 2 et sûrement 300 000 personnes auront vu au moins un opéra. Il suffit donc d'organisation pour que l'opéra devienne à la portée de la masse. Et je reste convaincu que les 150 représentations seront données pour la première année ou la deuxième année, malheureusement, encore à guichet fermé. Il faudra que les saisons suivantes, on se rende compte qu'il faut absolument ajouter des œuvres et ajouter des représentations. Je sais que j'ai la réputation de m'enthousiasmer assez facilement et d'être optimiste trop facilement. Mais on admettra aussi que ça n'a pas desservi dans le passé. Et je suis convaincu, je crois que vous le serez autant que moi, que d'être sceptique sur les possibilités de remplir cette salle 150 fois dans l'année, ce n'est plus du scepticisme, c'est de la dépréciation de soi-même. Reprenons-les, les chiffres, parce qu'il faut les garder. 3 millions de personnes qui peuvent venir ici, parce qu'aujourd'hui et d'ici peu d'années, avec les autoroutes qui se construisent autour de Montréal, dans l'espace d'une heure et quart, on va et on vient très facilement. Et je sais qu'il y a des gens de Sainte-Agathe, il y a des gens de Trois-Rivières, il y a des gens même d'Ottawa qui peuvent venir ici et retourner. Il y a des gens qui sont aux États-Unis et qui sont beaucoup plus près de Montréal que de New York. Et il y a des gens sur la frontière américaine, tout près de la frontière américaine, qui sont des amateurs d'opéra et qui aimeraient venir à l'Opéra de Montréal, parce que ce sera plus près que d'aller à l'Opéra de New York. Eh bien, il y a une population de 3 millions. Divisons par 2, ça fait 1,5 million d'adolescents et d'adultes possibles candidats d'opéra. Divisons par 2, ça fait 600 000 qui sont plus possibles que les autres. Redivisons par 2 encore. Ça fait 300 000 personnes. Et alors, je pense que ces 300 000-là viendront au moins une fois et que dans les 300 000, il s'en trouvera assez pour remplir les 150 000 sièges qui resteront à vendre. Et je n'ai pas compté de place pour les touristes. Or, les touristes sont-ils un élément important? Je dis oui, beaucoup plus important qu'on le croit. Et nous allons faire les touristes Arbour. À l'Opéra de Paris, le lundi soir, nous sommes allés voir Rigoletto. Un Montréalais, Jean-Pierre Hurteau, chantait le rôle de Monterone. Pendant les intermissions, très volontairement, je sortais dans les corridors, dans les grandes salles, et, croyez-le ou non, 21 Montréalais sont venus s'identifier à moi. Il y avait donc, ce soir-là, au moins, à part de moi, 21 Montréalais. Il y en avait même plus, parce que tous les Montréalais ne me croisaient pas dans les intermissions. Il y en a qui ne sortent pas pendant l'intermission, et d'autres étaient à d'autres paliers. J'ai appris par la suite que d'autres Montréalais étaient là, parce que de retour, ils ont communiqué avec moi pour me faire dire qu'ils avaient appris que j'étais à l'opéra ce soir-là, en même temps qu'eux. Donc, les Montréalais touristes vont à l'opéra. Mais il y a encore une autre constatation à Vienne. Disons qu'à Paris, c'est pas surprenant, bien des Montréalais vont à Paris. Bien à Vienne, Maître Pelletier et moi, nous avons été repêchés dans la salle par des Montréalais, et en sortant, il y en avait 6 qui nous attendaient à la porte pour nous dire bonsoir. Alors, les touristes vont à l'opéra. Pourquoi les touristes qui viennent ici ne viendraient pas à notre opéra? Et ici, il y a une raison de plus. Parce que le plus gros de notre tourisme, il faut bien l'avouer, ce sont des touristes de langue anglaise. Ce sont ou des gens d'autres provinces ou des gens des États-Unis qui forment le plus gros noyau de nos touristes. Eh bien, quand ils sont à Montréal, qu'est-ce qu'ils peuvent voir? Où peuvent-ils aller? Et dans le moment, le problème touristique de Montréal, c'est de pouvoir garder les touristes une journée de plus. Si les touristes qui venaient à Montréal, en congrès, et les autres touristes voyageurs, pouvaient trouver suffisamment ici pour qu'ils y demeurent une journée de plus, ça veut dire des millions de dollars par année qui restent à Montréal. Et qu'est-ce que les touristes peuvent bien chercher dans une ville comme Montréal, sinon un spectacle auquel ils peuvent aller, sachant qu'ils comprendront ce qui se passe? Peuvent-ils aller dans nos théâtres de langue française? Évidemment non. À New York, beaucoup de touristes vont au théâtre, même des Canadiens français, parce qu'on peut suivre en anglais. Mais la plupart des touristes de langue anglaise qui viennent à Montréal ne peuvent pas aller dans nos théâtres de langue française. Ce qui me surprend le plus, peut-être, c'est que, précisément, il n'y a pas de théâtre permanent de langue anglaise, puisqu'il y a un nombre considérable de touristes de langue anglaise qui, s'il y avait un théâtre de langue anglaise, pourraient recevoir leur visite. Alors, les touristes qui viennent ici, ils aiment Montréal. Ils deviennent amoureux de notre ville. Ils voient des choses qu'ils n'ont pas vues. Ils saisissent une atmosphère différente. Ils mangent dans nos restaurants mieux que partout ailleurs. Ils aiment entendre parler français. Mais au bout de 2 jours, ils commencent à parler de la Québec. Parce que Québec est plus folklorique que Montréal. Or, il ne faut pas. Il ne faut pas que Montréal devienne une ville folklorique. Il faut que la ville de Québec garde son caractère. Il faut que les Américains, que nos touristes aillent à Québec pour voir Québec tel que Québec s'offre. Il nous appartient d'offrir autre chose aux touristes. Et ce que les touristes s'attendent de trouver, ce sont des institutions à la mesure d'une grande ville. Alors, sans penser aux touristes, nous avons rempli la salle 150 fois. Nous avons refusé du monde. Avec les touristes, je n'ai aucun doute. Maintenant, la grande question, et on me l'a dit bien des fois, c'est celle-ci. Combien ça coûte? Est-ce qu'il y a possibilité de financer ça? Eh bien, il y a un mot qu'il faut bannir du vocabulaire. Si on ne s'entend pas pour bannir ce mot-là, on ne pourra pas continuer plus loin les propos. On ne parle pas de déficit quand il s'agit d'entretenir le parc La Fontaine. On ne parle pas de déficit quand il s'agit d'entretenir le parc de la Montagne. On ne parle pas de déficit quand il s'agit de maintenir le parc de l'île Sainte-Hélène. Et on sait, et c'eût été avec raison, les protestations qui ont d'abord été entendues quand on a désigné l'île Sainte-Hélène comme emplacement de l'expo, les citoyens croyant que ça signifiait la suppression du parc. Les Montréalais tiennent au parc, ils sont prêts à en payer le prix. Et ils ont raison. Et il n'a jamais été question de supprimer le parc. Mais il n'est pas question de déficit. Il n'est pas question de déficit pour maintenir le golf municipal. Il n'est pas question de déficit pour maintenir les piscines publiques. Ni pour maintenir les patinoires d'hiver. Tout ça, ça coûte de l'argent. C'est maintenant entré comme des services publics. Et moi qui crois que je ne suis pas encore tellement vieux, je me souviens que quand j'étais enfant, eh bien, il y avait des terrains vagues dans lesquels on jouait sans moniteur et sans se faire fournir tous les accessoires de jeu. Aujourd'hui, c'est accepté par les contribuables qu'il faille organiser des terrains de jeu avec moniteurs et moniteurs spécialisés. C'est entré, c'est admis. C'est admis que les piscines ne doivent plus rester des facilités à la disposition des gens riches. Et la multiplication des piscines se fait. Du même coup, le même été, dans la même journée, en juin 62, nous en avons inauguré 10 des piscines en plein air. Je n'ai pas besoin de vous dire que la ville ne fait pas d'argent avec les piscines. Si on calcule les investissements, l'entretien et tout, la ville ne fait pas ses frais. Mais c'est admis que c'est un service public. La masse des enfants et des adultes qui ne peuvent pas se payer des loisirs de luxe ont quand même droit à l'eau et au plein air. Et ça, ça a été admis. Vous me voyez venir. Il faudra tôt ou tard, mieux vaut tôt que tard, admettre que de s'occuper de l'intelligence des adultes et des adolescents, c'est non moins important que de s'intéresser à leur développement physique et à leurs loisirs récréatifs purement et simplement. Et ce serait un non-sens de se contenter de former par les conservatoires, par les écoles de chant, par les bourses d'études, des artistes, des musiciens, des chanteurs, et de ne leur assurer, de ne leur laisser entrevoir aucun débouché. Quand on forme à des écoles d'arts et métiers, des étudiants, c'est parce qu'après, ils gagneront leur vie avec leur métier. Et quand on peut se payer des conservatoires et qu'on se paye des systèmes de bourse, ça doit être pour mener quelque part. Ça ne doit pas être... Ça ne doit pas être pour alimenter, fournir des éléments nouveaux à des compagnies étrangères d'une façon systématique. Ça ne doit pas être pour le seul plaisir d'entendre sur cette scène, dans cette salle, des chanteurs qui viennent ici de Covent Garden ou de l'Opéra de Paris ou de l'Opéra d'ici ou de l'Opéra de là et qui viennent dans leur moment libre, chanter à Montréal, quand ça devrait être le contraire, des chanteurs de l'Opéra de Montréal qui, dans leur moment libre, vont chanter ailleurs. Donc, sur le plan financier, il y a un mot qu'il faut bannir, c'est le mot déficit. Le moment me paraît venu d'accepter que des activités culturelle et artistique de cette importance et avec les éléments dont nous disposons et le public qu'il désire, même souvent sans s'en rendre compte, eh bien, le moment est venu d'ouvrir la porte, de trouver un poste dans les budgets des divers gouvernements pour que l'item opéra y apparaisse. C'est assez révolutionnaire, je l'admets. Et vous rappelant ce que je vous ai dit tout à l'heure, qu'en pays nord-américain, ça n'existe pas. Évidemment, il n'y a pas de honte à avoir parce que ça n'est pas encore accepté, mais il y aurait sans doute une très grande fierté à ce que ça commence par ici. Et c'est normal que ça commence par ici. Parce que même si géographiquement Montréal est situé en terre nord-américaine, intellectuellement, au point de vue de la culture, nous devons nous rattacher au continent européen. C'est Malraux qui disait lors de son passage ici, il est évident que dans ce pays, particulièrement dans cette ville, qu'il y ait des grands buildings à l'américaine, mais il n'y a pas de raison pour qu'il n'y ait pas dans tout ça une pensée à la française, que ça ne soit pas fait à la française. Il y a sans doute des avantages indéniables à être situé sur ce continent nord-américain. Mais il ne faudrait pas, maintenant que le temps est si court d'un continent à l'autre, nier les avantages indéniables et nombreux aux liens nombreux à établir avec la vieille Europe. Non seulement avec la France, mais avec tous les pays d'Europe. Chacun a quelque chose à nous donner. Chacun a quelque chose à nous communiquer. C'est une ferveur, c'est une inspiration que nous devons les prendre dans ces divers pays. Et aujourd'hui, Montréal étant relié si rapidement avec toutes les grandes capitales et toutes les grandes métropoles du monde par 16 ou 17 lignes aériennes transatlantiques, toutes excellentes, il n'y a pas de raison pour qu'on ne tende pas, nous, ici à Montréal, dans l'État du Québec, à s'inspirer davantage maintenant de ce qui se fait en Europe et à ouvrir la porte sur ce continent nord-américain à une reconnaissance par l'État du rôle de l'opéra dans la société. Et pourquoi du rôle de l'opéra plus qu'autre chose? C'est parce que l'opéra est l'art spectaculaire le plus complet qui existe. Les musiciens y viennent. Ceux qui aiment le chant y viennent. Ceux qui aiment le théâtre y viennent. Ceux qui aiment la mise en scène, les éclairages, ils viennent. Même ceux qui aiment le mélo, ils viennent. Et c'est probablement une belle occasion pour ceux qui snobent le mélo d'y venir quand même. On peut bien se le dire entre nous qui aimons l'opéra, où serait l'opéra s'il n'y avait pas de mélo? Mais présenté en musique par des voix dont on garde un souvenir tellement durable, sans s'en apercevoir, on quitte la salle, parfois les yeux humides et le cœur battant un peu fort. On s'est laissé prendre au jeu, parce que là, l'histoire dépouillée de son mélo, l'accent ayant été mis sur la musique et la voix humaine, on entend des appels déchirants qui nous restent de tous les opéras. Eh bien, c'est la forme d'art spectaculaire qui est la plus complète. C'est celle qui fait appel au plus vaste public. Et c'est pourquoi je dis avant, peut-être, pas peut-être, sûrement, avant de songer à bâtir d'autres salles pour d'autres choses, je crois qu'il importe de meubler celle-ci, cette scène d'une façon permanente et ses sièges d'une façon permanente. Vous me direz, cette salle est déjà pas mal louée. On essaie de demander des journées, des soirées, et mon Dieu, c'est loué pour un an d'avance. Mais là, il y a une responsabilité grave qui pèse chez les administrateurs publics. Cette salle, je l'ai dit, coûtera au fonds public de la province et de la ville de Montréal environ 1,5 million par année. À quoi sert cette subvention? Si on fait exception de quelques 60 concerts de l'orchestre symphonique, de quelques représentations des grands ballets, de quelques musicals canadiens, de quelques soirées de concerts hors série, par des récitals quelques-uns dans l'année, bien le reste de l'année, 1,5 million, sert à subventionner des institutions étrangères qui passent ici. J'admire Nat King Cole, Harry James et Harry Belafonte. Mais je pense qu'avant de voter les crédits pour bâtir cette salle, si on avait dit que c'était pour ça, je pense que les citoyens auraient hésité. Et avec raison, moi, j'aurais hésité comme administrateur. La grande salle de la Place des Arts ne doit pas être une salle paroissiale allouée à tout venant. On doit en faire l'occupation par tous les moyens dont nous disposons nous-mêmes. Et après, quand l'orchestre symphonique, quand les ballets, quand l'opéra et quand d'autres institutions de qualité, parce que ça devrait être une consécration de pouvoir jouer dans cette salle, quand toutes les autres institutions de qualité auront choisi leur soir, se seront répartis le calendrier, je n'ai pas d'objection du tout à ce que les autres matinées, les autres soirées servent à d'autres présentations artistiques. Et à ce moment-là, et quand l'occupation de cette salle aura été faite, d'abord par des institutions de qualité, et il faut être exigeant, je ne fais pas de compromis sur la qualité, quand ça aura été rempli, occupé par nous, et que le besoin se fera sentir de bâtir autre chose, à ce moment-là, on pourra trouver qu'est-ce qu'il y a à bâtir. Et alors, toujours parlant de la question financière, je dis qu'il avait été prévu que cette place des arts, c'est pourquoi ça s'appelle une place, on a assez discuté au point de vue linguistique si c'était la salle qui s'appelait la place des arts ou si c'était pas la salle. Eh bien, on est tous d'accord pour dire que la place des arts, c'est plus que la salle. Ça va de la rue Saint-Urbain à la rue Jeanne-Mance, de la rue Sainte-Catherine à la rue Ontario, et que ça a été prévu pour qu'il y ait d'autres édifices de situés sur cet emplacement. Mais je dis qu'avant d'investir d'autres millions dans d'autres constructions, il faudrait peut-être utiliser ces millions-là pour assurer l'occupation de cette salle. Et quand le besoin se fera sentir, et s'il reste des millions, ça sera pour bâtir d'autres salles, pour recevoir d'autres choses. C'est ma conception, j'en fais part ce soir, et je la soutiendrai. Ce qui permet de dire en passant qu'une fois cette décision prise de ne pas construire immédiatement sur le même emplacement, il sera possible, et je sais que ça fera plaisir à tout le monde, moi le tout premier, de procéder à l'aménagement de l'emplacement pour que ça cesse de ressembler à un chantier. Au plus impatient, je dirais que vous comprendrez sans doute que tant qu'il était possible que ça continue d'être un chantier, ça aurait été un bien mauvais placement que de dépenser des milliers de dollars pour planter des arbustes, y mettre du gazon, de la verdure et aménager les abords de la salle avec dignité et agrément. J'ai pas d'objection à dire que nous allons favoriser tous les moyens, l'aménagement des abords, et que dès le printemps prochain, tout de suite après l'hiver, les gens seront au travail. Financièrement, donc, ça prend de l'argent. Et il faut accepter l'idée que ça entre au budget des pouvoirs publics. Il ne faut pas tout de même oublier que nous sommes en terre américaine. Et qu'en terre américaine, c'est nouveau. Et que l'opinion publique, dans l'ensemble, n'est peut-être pas prête, et sûrement pas prête, j'aime autant l'admettre, n'est sûrement pas prête à admettre que tout le budget de l'opéra entre au budget provincial ou municipal ou fédéral. Je crois qu'il y a lieu pour le moment d'envisager une formule mitoyenne Je crois que Montréal doit avoir son opéra. Il doit l'avoir maintenant, mais par le moyen d'une formule mitoyenne qui fasse sa place au pouvoir public et sa place aux finances privées. Il serait impensable chez nous de faire appel à l'industrie, au commerce, aux hommes d'affaires et même au public en général pour soutenir seule une maison d'opéra permanente. Mais il ne me paraît pas impossible de trouver dans le grand public de Montréal, dans celui du Québec tout entier et du Canada, des institutions industrielles, commerciales, des citoyens, en moyen de le faire et consentant de le faire, et qui accepterait de faire des dons à l'opéra. On sait que les grands lieux de pèlerinage font grand état des pierres qui sont souscrites par des donateurs et des chemins de croix et des chapelles de lampions et des escaliers mécaniques. Tout ça, c'est excellent. Je pense qu'il y a moyen de préparer un budget de 5 ans de l'Opéra de Montréal, de faire la liste de tout ce qu'on peut offrir à l'Opéra de Montréal, de faire le programme des 5 ans et de solliciter des grandes compagnies et certains citoyens et d'obtenir d'eux que les décors de tel opéra soient payés par telle compagnie, que les costumes de tel opéra soient payés par tel autre, et ainsi qu'on constitue au moyen d'une série de dons l'actif indispensable à la production. Et lorsque l'entreprise privée, lorsque la finance privée aura démontré qu'elle est présente et qu'elle coopère, moi, je peux bien vous dire que je n'ai aucun doute que les pouvoirs publics seront alors forcés de faire leur part. Je pense que, si ardent que soit notre désir d'un opéra, nous devons admettre que dans l'ensemble, ça serait prématuré d'exiger des pouvoirs publics un effort total. Je ne dis pas que ce ne serait pas souhaitable, mais je dis que ce serait prématuré. Les pouvoirs publics ne doivent pas mettre totalement de côté une partie importante de l'opinion publique, mais ne doivent pas non plus mettre totalement de côté une partie moins importante de l'opinion publique. Je crois donc que la formule est la suivante. Et ces chiffres-là sont donnés, disons, sous toute réserve, mais sont les plus approximatifs possibles, les plus près possibles de la réalité. Ceux d'entre vous qui êtes venus voir Carmen, par exemple, avez-vous une idée que pendant cette soirée que vous passiez, assis confortablement dans un fauteuil, pendant les 3 heures et demie que durait le spectacle, eh bien, il se dépense.